Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Alors, aujourd'hui, on reprend un petit peu le même sujet que la semaine dernière pour lequel on s'est fait remonter les bretelles puisque on a posté une vidéo qui s'appelle sobrement Faut-il bombarder l'Iran? Et il s'avère que l'Iran a été bombardé et que nous avons tenu des propos visiblement qui n'ont pas forcément plu à tout le monde. Alors, ça arrive de temps en temps, ça arrive à peu près 2 3 fois par an. Qu'on se fasse un peu remonter les bretelles comme ça par la section commentaires. Et alors, d'une part, je tiens à dire une chose, c'est que personne ne vous oblige à regarder nos vidéos et que de temps en temps, ça ne fait pas de mal aussi, même à vous, même à nous, d'avoir des remontrances un peu contradictoires avec ce que l'on pense. Et on accepte sans aucun problème toute forme de contradiction. En revanche, tout ce qui est insulte, etc., ça, on désapprouve.
On les approuve à condition qu'elles soient accompagnées d'un chèque.
Oui, éventuellement. Et encore, faut que le chèque soit conséquent quand même.
Un
Parce
chèque
que
conséquent,
un chèque de
c'est-à-dire.
10 euros, bon,
Non,
c'est...
non,
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 n'achète
il faut
pas.
quand même aller au moins sur du 4
Non,
chiffres,
non,
5
puisqu'on
chiffres.
nous excuse d'être. Si les gens veulent qu'on parle, disent ce qu'ils veulent, et s'ils pensent qu'on est des ordures, moi, la moindre des choses qu'ils pourraient faire, c'est nous payer pour qu'on dise, pour nous dire ensuite ce qu'il faut dire, quoi.
Ouais, c'est clair.
Mais moi, en principe, je dis ce que je pense,
Ouais.
sauf si on me paye des sommes monstrueuses.
Oui.
Pour me peu, peu, à ce moment-là, j'envisagerais peut-être de dire
Tout
des
à
choses
fait.
différentes,
Je
de dire
rappelle
du bien de je sais pas quoi.
à toutes fins utiles que nous sommes achetables par les Américains, par les Russes, par les Chinois, par Israël. J'ai envie de dire maintenant par l'Iran aussi, tant qu'à faire.
Oui, mais ils n'ont pas de moyens, vous savez,
Non,
maintenant. Ils en ont de
c'est...
moins en moins, donc je sais pas si
Là,
c'est
effectivement.
pas une carte. Non, non, mais
Effectivement.
l'idée de base, si vous voulez, c'est quand vous écoutez quelqu'un, d'abord vous n'êtes pas forcé, comme vous l'avez dit fort justement. Et vous l'écoutez peut-être dans l'idée tout à fait extraordinaire qu'il vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire changer d'avis.
Oui.
Si vous l'écoutez simplement pour renforcer vos opinions, ben c'est pas bien utile d'abord. Et ce que disait le premier président de la République sud-africaine, que j'aimais beaucoup, ce noir qui a eu le prix Nobel de la paix, là, vous savez, il disait
Mandela.
c'est merveilleux, Mandela, oui, il disait c'est merveilleux parce que si vous vous trompez. Si vous avez raison, vous êtes très content, mais vous n'avez rien appris. Si vous vous trompez, si quelqu'un vous montre que vous vous trompez, il vous rend service parce que vous vous améliorez.
Oui.
Donc, continuez à nous insulter et vous êtes certain que vous ne vous améliorerez jamais.
Oui.
Que bête vous êtes, bête vous resterez.
Effectivement. Oui.
Moi, si vous voulez, j'essaye toujours d'apprendre. Il m'est arrivé de changer d'avis dans ma vie,
Bien
fréquemment, d'ailleurs,
sûr,
dans les
bien
marchés
sûr.
financiers. Et il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et je crois qu'on en a eu particulièrement nombreux lors de cette dernière émission, quoi.
Oui, tout à fait.
Donc, si les imbéciles pouvaient se donner la peine de plus nous regarder, ça nous soulagerait, quoi.
Oui, tout à fait. Absolument. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc, Donald Trump a décidé de bombarder le week-end dernier les sites des centrifugeuses avec les fameuses bombes, les GBU-57, celles dont on parlait dans la vidéo, qui arrivent visiblement à plonger jusqu'à 60 mètres en profondeur et à provoquer des explosions énormes. Donc, selon Trump, les sites en question étaient complètement oblitérés par le largage donc de 14 de ces bombes par des bombardiers B2, auxquels on peut ajouter aussi 30 missiles Tomahawk qui ont été envoyés depuis des sous-marins américains qui étaient dans la zone. Donc, bien que l'Iran prétend avoir déplacé des quantités importantes d'uranium enrichi, à peu près 40 kilos, il est assez certain que le programme nucléaire a été ramené quand même quelques années en arrière. Par ailleurs, quand bien même ce serait vrai, le déplacement de ces masses d'uranium, les véhicules sont suivis, on peut l'imaginer, par satellite. On peut présumer que derrière, c'est le boulot d'Israël de savoir où cet uranium se trouve, si jamais ils ont envie que l'Iran s'en débarrasse. En tout cas, ce qui intéressait Trump, c'était surtout les capacités des centrifugeuses, c'est-à-dire le fait que cet uranium qui était enrichi à 60% ne devienne pas enrichi à 90% pour
Alors, je vous
devenir de
rappelle
l'uranium
aussi
nucléaire,
que
militaire.
pour faire du nucléaire civil, je crois que l'uranium à 40%, ça suffit.
Même beaucoup moins. L'uranium civil, je crois que c'est à 2-3%
Voilà. Donc, si
d'enrichissement.
vous êtes passé à 60,
Oui, c'est que vous avez envie de.
c'est que vous n'allez pas m'expliquer que vous allez faire des activités civiles, puisque la seule chose que vous pouvez faire, c'est de passer à 90 pour faire péter une bombe. Donc, et ensuite, la dernière étape de passer à 60 et 90, je crois que ça peut se faire en quelques jours. Donc, on nous expliquait qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de passer à 98 de faire des bombes, mais à ce moment-là, on comprend pas pourquoi ils en avaient fait à 60.
Oui.
C'était peut-être un peu de taqiya, vous savez. Ouais, c'est, ouais. Vous savez que dans le Coran, il est permis de mentir aux ennemis de l'islam, quoi. Ça, ouais, fait, ce qui fait que c'est difficile de signer des traités avec eux, parce que,
ouais,
peut-être ils sont en train de... Donc, il n'y a aucune explication rationnel au fait qu'ils soient passés à 60, si ce n'est qu'ils voulaient faire des bombes nucléaires.
Bien sûr, absolument.
Donc, une fois qu'on a dit ça, mm-hmm, bah, maintenant la question, c'est est-ce qu'un pays qui a annoncé qu'il voulait détruire le pays d'à côté a le droit d'avoir un nucléaire ? C'est une, mm-hmm, question qu'on peut discuter, mais c'est curieux, comme tous ces amis de la souveraineté ne disent rien quand la souveraineté française est accablée de mots, mais pour eux, ils sont intraitables sur sur la souveraineté de l'Iran.
Ouais, ouais.
Mais sur la souveraineté française, on les voit pas, quoi.
Tout à fait. Et d'ailleurs, sur l'uranium qui aurait été déplacé, donc il s'agirait d'à peu près 400 kilos d'uranium enrichi, il semblerait, il n'y a pas de source vraiment officielle là-dessus, mais il semblerait que, globalement, en fait, les États-Unis ont laissé penser l'Iran qu'ils allaient bombarder effectivement ces sites pour que l'Iran déplace ces masses d'uranium et pour qu'il n'y ait pas d'accident nucléaire sur place, parce que ça aussi c'était c'était une hypothèse peut-être
s'il était 80 mètres sous terre, ça allait pas aller bien loin.
Non mais voilà, c'était tout le monde n'était pas d'accord là-dessus, même dans le top niveau des scientifiques nucléaires, donc je vais vous dire, moi à mon niveau je serais parfaitement incapable de vous dire ce qu'il en serait, mais voilà, il y en avait qui disaient qu'il y aurait pas de risque, d'autres qui disaient peut-être il y aura un risque. Bon, moi j'en sais strictement rien. Bref, donc juste après ça, il y a eu encore des échanges de missiles. Hier, l'Iran a bombardé aussi deux sites américains, un au Qatar, un en Irak. Alors en prévenant quand même 2 heures à l'avance.
Les missiles ne sont pas arrivés.
Oui, en plus de ça, aucun de ces missiles n'a atteint sa cible. Enfin bref, c'est là on est vraiment dans une guerre un peu gentillette, un peu théâtrale. Alors, pour revenir sur l'intervention de départ, il y avait un petit peu deux manières de la voir. Déjà, j'ai vu que les journaux titraient deux choses différentes. Il y en avait qui titraient « Les États-Unis interviennent pour faire une opération militaire aérienne en Iran », et d'autres qui titraient « Donald Trump déclare la guerre à l'Iran ».
Alors, pas la même chose.
C'est pas du tout la même chose, parce qu'il y en a, il y a une opération qui dit en gros « On fait ça parce qu'on a besoin de faire ça », et ensuite... le problème est réglé, on s'en va. Et une autre interprétation qui dit on est parti pour une guerre comme peut-être la deuxième guerre d'Irak ou la guerre d'Afghanistan, où là on y est pour 10 ans, 15 ans, avec guerre civile, renversement de régime, etc.
Et la différence entre les deux, c'est est-ce que les États-Unis envisagent un jour de mettre ce qu'on appelle en anglais des semelles sur la terre, c'est-à-dire d'envoyer, ouais, des soldats.
Ouais.
Si vous bombardez les gens comme ça de loin et tout, bon, bah, c'est désagréable, mais en fait, donc, en aucun cas, je crois que je peux me tromper, bien entendu.
Oui, bien sûr.
Je crois que les Américains, en particulier l'administration Trump, a envie d'envoyer des soldats américains quelque part dans le Moyen-Orient aujourd'hui. Ils ont aucune idée, c'est de les ramener. Hein.
Oui, je pense aussi.
Donc, je crois que la première hypothèse est la bonne, quoi.
Oui.
C'est que Trump négocie avec les Iraniens depuis des mois en leur disant, il faut arrêter cette histoire de bombe nucléaire, là. Ils ont continué à la bâtir. Bon, ils ont pris une bombe. Ou plusieurs.
Mmh. Ouais. Et puis parce qu'il y a deux buts de guerre différents. C'est-à-dire que la question initiale, c'est celle du programme nucléaire militaire. Et la deuxième question, c'est celle du changement de régime. Et la question du changement de régime, Trump, ça n'a pas l'air du tout de l'occuper.
Bah, il est... Bon, il y a eu quelques changements de régime qui ont été imposés par les États-Unis, en particulier au Japon et l'Allemagne après 45, là. Mais depuis, ils ont essayé ici ou là, ça n'a pas été des grands succès.
Bien sûr, absolument.
Vous n'avez qu'à voir en Irak, en Irlande, en Libye, enfin, en Serbie, tout ça, ça a été... Donc, je crois que, dans le fond, changement de régime, ce serait bien... si on aidait l'armée iranienne à se débarrasser des gardes de la révolution. Quoi.
Ah ouais. Et puis il y a quelque chose, c'est que je pense que c'est peut-être surtout la guerre d'Irak qui a fait ça, c'est que il y a 20 ans, 25 ans, la base électorale des républicains était globalement pro-guerre.
Enfin, pro les États-Unis vont sauver le monde.
Voilà, pro-intervention, gendarmes du monde, etc. Et Déjà, il s'est passé qu'il y a eu cette guerre d'Irak qui était totalement injustifiée, puisque d'une part, il n'y avait pas de lien direct, en tout cas, c'était largement exagéré si jamais il y en avait, il n'y avait pas de lien direct entre l'Irak et Al-Qaïda, d'une part, et d'autre part, il n'y avait pas de risque véritable d'armes de destruction massive comme c'était
Et
le cas
puis on
en
a bien vu ce qui s'est
1991.
passé en Irak, en Libye. Bah, chaque fois que vous faites tomber un de ces régimes autoritaires musulmans qui existaient, c'est un merdier pas possible après.
Ouais,
C'est-à-dire qu'il n'y a
c'est la
pas la
guerre civile.
démocratie, c'est l'anarchie, quoi. Ça devient le marché d'esclaves a rouvert à
C'est ça,
Tripoli.
on a des groupes terroristes, on a des factions de part et d'autre, enfin ouais.
Ouais. Donc, c'est toujours la même histoire, c'est que vous savez. C'est peut-être plus facile d'avoir des relations avec un Saddam Hussein qu'avec une bande de cinglés en Sibérie,
Ouais.
en Syrie ou ailleurs. Vous ne savez pas qui ils sont, quoi.
Ouais, tout à fait.
Vous avez qu'en Syrie, ils viennent de tuer 35 chrétiens libanais, un type qui s'est fait sauter dans une église qui a tué des chrétiens. Donc, on recommence à massacrer les chrétiens au Moyen-Orient. C'est une vieille habitude, mais
Ouais.
enfin, heureusement qu'il n'y a plus de juifs parce qu'ils y passeraient aussi.
Ouais.
Donc, si vous voulez, tout ça, c'est joli, mais vous foutez en l'air un système qui est peut-être pas bien, mais qui est là.
Bien sûr, ouais.
Et donc, bon, faire sauter les ayatollahs, moi, je suis tout pour, mais... Bon, prenez un exemple, par exemple. Une grosse partie de l'Iran, vous savez, il y a une... Entre la Russie et l'Iran, et la Perse, il y a eu des guerres fréquentes. Et par exemple, il y avait eu des guerres pour l'Azerbaïdjan.
Oui.
Au 19e. Hein. Bon, bah alors la Russie a pris la moitié de l'Azerbaïdjan et l'Iran a repris l'autre moitié de l'Azerbaïdjan. Ça, c'était au 19e. Et donc maintenant, l'Azerbaïdjan qui est devenu indépendant, c'est l'Azerbaïdjan russe.
Ouais.
Mais vous avez à peu près le tiers de l'Afghanistan qui est l'Azerbaïdjan, où il y a des Azéris. Donc, est-ce que l'Azerbaïdjan va pas faire ce qu'ils ont fait aux Arméniens, rentrer dans la partie azérie de l'Iran pour la piquer.
Ouais.
Et donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous ouvrez cette boîte de Pandore,
Bien sûr, tout le monde essaye de grappiller ce qu'il peut avoir.
attendez, c'est à moi, ça.
Il y a des populations disparates, des minorités
Je crois que
religieuses,
les Perses
etc.
font que
Donc,
la moitié de la population.
ouais.
Donc, eux-mêmes, ils ont occupé des tas de territoires de façon douteuse historiquement.
Ouais.
Donc tout ça, si vous voulez. C'est un petit peu comme dans les Balkans, quoi. Vaut mieux pas aller voir, hein, parce que
Ouais.
ce que vous trouvez, c'est que vous trouvez qu'il y a des tas de cadavres enterrés partout et que ça ramène vite à la surface. Donc,
Ouais.
voilà, ce que je voulais dire, c'est que l'Iran lui-même n'a pas été parfaitement blanc-bleu dans toutes les son intégrité territoriale aujourd'hui.
Bien sûr, il y a une prime d'ancienneté, mais qui est pas okay.
Voilà. 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 Donc, il serait bien que l'armée iranienne reprenne le contrôle du pays et se débarrasse des gardes de la révolution qui sont les
Ouais.
forces. Mais ça, c'est une affaire à régler entre l'armée et les.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que
Moi,
c'est
j'ai
très
rien à dire là.
difficile d'instaurer une révolution légitime de l'extérieur.
Oui.
Quand bien même on a une minorité à l'intérieur qui est très motivée pour, voilà. Le truc, c'est que si jamais, le problème, c'est que les intervenants franco-iraniens ou américano-iraniens qu'on entend sur les plateaux télé, je suis pas du tout certain, voire même je suis assez certain du contraire, qu'ils représentent véritablement la majorité de la population iranienne. Parce que c'est comme si on essayait de demander à des Français qui vivent à Londres ou à New York d'expliquer les gilets jaunes, par exemple. Je suis pas sûr qu'ils y parviennent très très bien.
Ou ils sont peut-être en faveur et tout, mais ou même qu'ils les comprennent bien. Donc en effet, c'est ça, c'est que en principe, une démocratie fonctionne dans le cadre d'une nation et à condition que ceux qui perdent acceptent le verdict des urnes.
Ouais.
Mais dans des pays comme l'Iran et tout, le verdict des urnes, puisqu'il n'y a que la moitié qui sont perses,
Ouais.
ça va être difficile. Donc, il me semble que le choix qu'on a devant nous, c'est pas un choix bien. Bon, c'est de garder les ayatollahs, ou bien l'alternative, c'est d'essayer de mettre des gens qu'on préfère, là, l'armée iranienne, ou troisième possibilité, le merdier et le chaos.
Ouais.
moi, c'est, à partir de ce moment-là, ça m'intéresse plus. À partir du moment où les Iraniens peuvent plus foutre une bombe atomique sur les, sur, sur Israël, moi, ça veut
dire. Oui, le problème est réglé, oui, effectivement.
Pour moi, maintenant, ça va, la question est. Elle n'est pas plus la peine d'être discutée, même.
Et on a quand même l'impression que Israël cherche un conflit quand même plus global avec, avec l'Iran. Surtout, ils ont le sentiment d'avoir vraiment pris le dessus sur, sur l'Iran. Ils ont déjà le contrôle du secteur aérien.
Ils aimeraient bien avoir retrouvé les bonnes années du Shah, où il y avait. Ils étaient copains.
Et le truc, c'est que eux, directement, ne vont pas subir tous les problèmes du pays si jamais c'est le régime
s'effondre. Parce que si jamais l'Iran explose, que c'est le chaos et tout. Les types, tous les Iraniens, ils vont partir à pied. Comme ont fait les Syriens. Ils vont passer par la Turquie. Et qui c'est qui va les ramasser?
C'est nous, hein. C'est Bibi.
Donc ils s'arrêteront peut-être en Allemagne, mais c'est pas sûr.
Bien sûr.
Donc, vous savez qu'il y a quand même 80 millions de personnes. S'ils commencent à se barrer.
Déjà que les Syriens, c'était pas évident.
C'était pas un cadeau. Donc, voilà. Donc, il y a aussi 80 millions de personnes là-bas, dont une partie ont peut-être envie de se barrer.
Bien sûr.
Ça me paraît. Donc, le drame atomique a été évité. Apparemment.
Et Trump a voulu faire. Alors, on est encore là au moment où on tourne dans la. Dans le doute, un petit peu dans le brouillard, mais heure française, hier soir, Trump a annoncé un cessez-le-feu entre les deux pays. Alors apparemment, l'Iran l'aurait d'abord violé, puis ensuite Israël a répondu, Netanyahou a dit ils ont violé, machin. Et derrière, donc Israël a prévu toute une série de frappes, ce qui a beaucoup énervé Trump. Donc Trump a dit, bon, il commence à m'embêter un petit peu, ces Israéliens, donc faites demi-tour les avions, et puis on n'en parle plus, respecter le cessez-le-feu, parce que l'Iran, semblerait-il, est prêt à le respecter. Donc là aussi, on est un petit peu dans le flou à l'heure actuelle. Est-ce que ces avions vont faire demi-tour? On ne sait pas encore.
Mais il y avait des gens qui étaient au courant avant.
Oui.
Parce que j'ai vu s'effondrer les prix du pétrole avec stupéfaction. Mais d'ailleurs, 5 ou 6 heures avant, donc il y a des gens qui ont dû vendre le pétrole et gagner beaucoup d'argent sur ce coup-là.
Bien sûr, il y a des petits coups d'insider trading, effectivement, depuis...
Ils sont passés là, je serais ça... J'aimerais bien savoir qui l'a fait, mais je mange. J'ai des doutes.
Oui. J'aimerais bien avoir un petit micro quand même dans le bureau ovale, parce qu'à mon avis, ça me rendrait riche en pas beaucoup de temps.
Voilà, là, vous vendez quelques centaines de milliers de barils sur le marché des futurs à Chicago. À 72-73, vous couvrez à 65, ça fait déjà bien, quoi.
Ouais, c'est clair.
Non, mais c'est ça qui est embêtant dans toutes ces opérations militaires et tout, c'est... C'est toujours les opérations qui se passent avant dans les marchés financiers. Et il n'y a jamais d'enquêtes qui sont faites.
Ouais.
Je me souviens quand il y avait eu 9-11, vous savez, les tours qui sont écroulées. Bon, ben, il y avait eu des achats d'options de vente absolument monstrueuses qui s'étaient passées littéralement la veille. Quoi.
Ouais.
Ça ne vous gêne pas?
Bah, si, si, bien sûr, c'est extrêmement inquiétant, oui.
Ça vous gêne pas? Donc, est-ce que c'est comme ça que la CIA se finance? Parce qu'elle n'a pas besoin de demander d'argent. Donc, dans un système libéral, quand des gens commencent à utiliser les marchés financiers parce qu'ils ont des informations privilégiées sur le fait que, je sais pas, quelqu'un va faire sauter l'Elysée demain, à mon avis, là, d'ailleurs, s'ils vendaient à découvert, ils perdraient là, parce que probablement. Si l'Elysée venait à sauter, peut-être le marché monterait, non?
Je sais pas, peut-être pas immédiatement, mais je pense ça peut-être pas à court terme, mais à long terme, oui, certainement.
Non, oui.
Je pense qu'au moment, on se dit, oh là là, c'est horrible, et puis après, on se réveille le lendemain matin, on se dit, mais est-ce que c'est si horrible que ça?
Non, on va pas dire, on n'appelle pas au meurtre de quiconque, mais on va dire, c'est toujours gênant quand le patron d'une entreprise démissionne. Et que son titre en bourse monte de 20% immédiatement derrière. Ça donne l'impression que c'était
plutôt une bonne chose.
C'était peut-être pas le meilleur des gérants quand même.
C'est ce qui s'est passé avec le groupe Kering là, il y a quelques jours, par exemple.
Par exemple, donc voilà, c'est donc oui, ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est, je vais en tirer une conclusion très positive. Allez, imaginez que le danger et que atomique soit passé. À ce moment-là, l'Iran se retrouve dans une position quand même très affaiblie, puisque ses principaux alliés ont tous été dégommés, il reste un peu. Bon. À ce moment-là, ils doivent essayer de satisfaire un petit peu leur population. et quand vous regardez la carte que j'ai montée 25 fois, qui part de la Crimée, qui arrive jusqu'à là, ouais. Ce qui bloquait ce qu'on appelle les accords d'Abraham depuis 2-3 ans, c'était l'Iran, avec ses tentatives de créer des troubles avec Israël, etc. Bon, si l'Iran devient un pays comme un autre, même pas agréable, mais enfin, commence à être un pays non comme les autres, vous allez avoir une vague de croissance dans le Moyen-Orient qui va être mais phénoménale. Ouais. Phénoménale. C'est, parce que Dieu sait qu'ils ont besoin de se parler les uns aux autres, de bâtir des... À force de faire sauter tous les ponts et de faire sauter toutes les villes, il y a des reconstructions à faire, quoi. Mmh,
ouais.
Donc, si vous voulez, je me dis, la zone qui va... Parce que le port, vous savez, les grandes infrastructures russes qui amènent les matières premières à l'Inde,
oui.
Elles arrivent dans un port qui est en Iran.
Oui.
Juste avant le Pakistan, là, en Iran. Ben, c'est-à-dire que l'Iran pourrait bénéficier d'être sur l'axe comme ouais, ça, c'est sûr. Extraordinaire. Donc, si vous replacez ce qui se passe depuis un an ou deux avec l'Iran, etc., c'était une tentative de torpiller les accords d'Abraham, il est possible qu'ils aient raté leur coup.
Oui.
Et dans ce cas-là, vous n'avez pas assez d'action.
Dans mon... On n'a jamais assez d'actions.
Si, quand ça baisse, vous en avez trop. Ça, j'ai connu ça. J'ai connu des périodes où j'avais beaucoup trop d'actions. Ça, je vous assure que.
Peut-être dans les années 70.
Les moments où les marchés baissent, en 87, vous baissez 23% en une journée, vous en avez trop, je peux vous dire. Vous en avez beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. C'est quand ça monte que vous en avez pas assez.
Ouais.
Donc, mais ce que je veux dire, ben là, c'est que. Il faut peut-être placer ça dans un environnement un peu plus large.
Mais est-ce que, selon vous, il y aurait une possibilité que l'Iran se réforme de l'intérieur ? Parce qu'ils ont un dirigeant qui est là depuis énormément de temps, je crois qu'il est là depuis 30 ans, quelque chose comme ça.
Kadhafi, Khomeini, il est mort assez vite.
Oui, c'est ça, donc il a depuis plus de 30 ans, et il a quand même 84 ou 85 ans, je crois.
Oui, mais on connaît déjà son successeur. Son successeur, oui. Ce serait son fiston.
D'accord.
Ce qui est déjà une preuve...
Ah oui, donc
que la faveur divine
ouais.
Suit les...
se transmet. Donc en fait, on revient sur une monarchie finalement. On est sur une autre.
Une monarchie théocratique.
Oui, c'est ça. Une monarchie théocratique, ouais.
Ça va être. C'est intéressant comme concept.
Oui, c'est intéressant. Mais je ne sais pas si ça a déjà été tenté avant.
Une monarchie théocratique tyrannique.
Oui.
Et
dictatoriale.
Génocidaire. Enfin, quoi,
génocidaire, oui.
C'est bien.
Oui.
Mmh. Ça donne confiance. Donc, je crois pas, mais parce que dès le moment où les Iraniens vont commencer à s'ouvrir, à redevenir prospères, etc., j'ai l'impression que la population, ils sont quand même 80 millions, donc
oui.
Ils peuvent faire sauter n'importe qui quand ils le voudront. Mais ça, si j'ose dire, c'est pas notre business.
Non, non, c'est sûr.
Je veux dire, bon, moi je regarde maintenant.
C'est sûr, oui, si on commence à intervenir dans chaque pays qui ne respecte pas vraiment les principes que nous avons, nous,
ben oui,
on
mais
pas
à,
fini.
À ce moment-là, il faudrait que quelqu'un intervienne en France vite fait. Hein.
Oui, c'est pas faux. Effectivement.
Donc, je sais pas, il faudrait demander aux Américains de nous bombarder, mais attendez.
Oui.
Ils savent faire, hein.
Oui, ils savent faire. Bah,
ils l'ont fait en Serbie.
Bah, mine de rien, cette opération, je trouve, fait une bonne pub à l'armement américain, enfin surtout à Boeing. Ils en avaient besoin parce que ça faisait quand même pas mal d'années que.
Ouais. Qu'ils commençaient à gagner. Pour une fois, il n'est pas tombé.
Oui.
Leurs avions ne sont pas tombés. Oui. Je croyais que les Boeing, ça tombait toujours.
Non, pas ceux-là. Non, effectivement, le B2, c'est quand même une assez grosse merveille d'ingénierie. Enfin, c'est un avion complètement fascinant. On dirait un truc totalement futuriste venu d'ailleurs.
C'est une sale gueule. Hein.
C'est
une sale gueule. Moi, je ne sais pas, mais je verrais ça, je n'aurais pas.
Ouais.
Ça me donne pas confiance, quoi. Je me demande ce que c'est que cette bête-là.
Il y a un dicton dans l'armée américaine, c'est que le B2, si vous le voyez, c'est qu'il est pas pour vous.
Oui, exactement. Parce qu'on réussit pas à les choper au radar, hein.
Non, effectivement, c'est-à-dire qu'au radar, la signature au radar est comparable à celle d'un oiseau. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous voyez le radar, vous voyez une signature, mais vous avez l'impression que c'est un oiseau, quoi. C'est un gros oiseau et il porte des trucs que vous n'avez pas envie de recevoir, quoi. Il est capable de porter des bombes de 14 tonnes, c'est quand même assez impressionnant. Et 36 heures de vol, d'ailleurs.
Mais alors, qu'est-ce qu'ils font là ? Ils dorment pendant qu'ils volent ? Il y a deux équipages, il y a une, y a une cabine derrière.
Je sais pas, ils ont peut-être un iPad pour regarder Netflix. Peut-être ils chargent des films.
Heures quand même, vous arrivez, vous êtes un peu fatigué.
J'en sais rien, mais oui, c'est sûr, on doit être un peu fatigué.
Il doit y avoir des couchettes derrière. C'est
pas possible. Oui, bah, j'espère pour eux, parce que sinon, c'est la vie dure.
Ne pense pas à ces pauvres soldats, là, qui sont dans l'avion pendant 36 heures. Personne ne fait leur. Ne signe de dire qu'ils ont bien des mérites.
Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est type quand même assez admirable. En plus de ça, je crois qu'ils sont pas beaucoup à pouvoir piloter des B2 parce que c'est assez technique et ça demande un entretien complètement fou de l'avion. Enfin bref, c'est une espèce de merveille d'ingénierie pour le coup américaine. Et après, j'ai aussi une autre question plus générale. On est tous d'accord, à peu près tous les pays du monde, même ceux qui s'entendent globalement bien avec le régime iranien, pour dire que l'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires.
Oui.
Et simplement, de temps en temps, moi je le pense aussi, mais j'aime bien réfléchir aussi contre moi-même. Je me dis oui, mais il y a quand même des pays comme la Corée du Nord ou le Pakistan qui ont l'arme nucléaire aussi. Et pourtant, le monde on n'a pas l'impression que le monde est mis en danger par ce fait. Alors, si la Corée du Nord là, si le Pakistan là, pourquoi pas l'Iran dans l'idée?
C'est une bonne question. La bonne réponse, c'est que ceux qui l'ont, le Corée du Nord, le Pakistan, il a dit qu'il voulait récupérer le Cachemire ou j'en sais rien, mais il a jamais dit qu'il voulait vitrifier l'Inde.
Oui.
Qu'il voulait débarrasser la terre entière de l'Inde. L'Iran, les moulins, il n'y a pas un jour où ils ne disaient pas qu'il fallait liquider le petit Satan qui était Israël, qu'il fallait sortir Israël du Moyen-Orient où il avait rien à foutre parce qu'il n'était pas de là-bas. Mmh. Ce qui est une notion intéressante parce que c'est une notion de purification ethnique. Hein. Mmh. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas considéré comme étant un local, on a le droit de vous... ce qui est d'ailleurs contraire. Donc, la principale raison, c'est que, dans le fond, les gens se sont mis d'accord pour dire qu'il n'y a pas de raison que des minénaristes fous puissent avoir l'arme atomique, c'est pas une bonne idée.
Ouais.
Parce qu'il est probable qu'ils s'en serviront un jour.
Ouais.
Je crois avoir entendu Michel Onfray dire que, dans le fond, les juifs et les chrétiens, et les non-croyants, ils peuvent avoir des armes atomiques, les musulmans, c'est peut-être pas une bonne idée.
Ouais.
Je sais pas si c'est un argument qui tient la route.
Après, les Pakistanais, ils sont musulmans. Hein,
ils sont musulmans.
C'est d'ailleurs, du coup, le seul pays musulman à avoir l'arme atomique.
L'arme atomique, là, oui.
Enfin, bientôt le Royaume-Uni, du coup.
C'est vrai, le Maroc, bientôt. Et la semaine d'après, la France. Bon.
Ouais.
J'espère qu'ils ne se mettront pas sur la gueule avec les armes atomiques d'entre
eux. Non, effectivement.
Oui. C'est pas possible, parce que les musulmans, ils aiment bien se mettre sur la gueule entre eux. Hein, c'est...
Bah, on a vu que...
Entre chiites et chiites, ça va bien.
Hein. Oui, bah, hier, même si on les avait prévenus, le Qatar, ils étaient pas contents d'avoir, dans l'idée, été visés par, même indirectement, puisque c'était par le biais de bases américaines, mais d'avoir eu leur territoire visé par l'Iran.
Non, ça les amusait pas. Donc, oui, ce qu'on peut dire, c'est, moi, il y avait deux problèmes. Un, l'arme atomique. Deux, le changement de régime.
Ouais.
Pour moi, ce qui me faisait sauter partout, c'était l'arme atomique.
Ouais.
Le changement de régime, bon, bah, ça, ouais. Bon. Non, c'est pas mon truc, j'ai rien à dire, c'est le problème des Iraniens. Ouais. Il faudrait bien un jour qu'ils se débarrassent de leurs corneaux.
Bien sûr. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour formuler une condamnation morale, sans équivoque.
Mais c'est pas moral, c'est pratique, parce qu'on dit, il faut savoir quand même que dans la religion chiite, le Mahdi doit revenir un jour, qu'il a été enfermé dans une caverne et le jour où il reviendra, c'est le jour où les juifs auraient été tués sur terre.
Ouais.
Quoi. Alors c'est un peu embêtant parce que entre ça et dire je vais tuer tous les juifs, comme ça le Mahdi pourra revenir et ce sera la fin de l'histoire.
Ouais.
Mais en fait, je sais pas si vous avez envie de voir le Mahdi revenir dans ces conditions.
Non, moi ça m'intéresse pas trop. Je sais pas, ça n'éveille pas trop ma curiosité personnellement.
Je n'attends pas son arrivée avec impatience.
Non, je suis pas sur ce scénario-là. Moi.
Non, c'est pas ce que j'attends de la vie, moi.
C'est pas ce qui m'intéresse le plus, effectivement. Non. Ouais. Et alors, j'avais prévu de discuter d'un truc aussi. Visiblement, c'est peut-être un petit peu hors de propos puisqu'on a un accord de cesser le feu, mais enfin, sait-on jamais. Il y avait le scénario de la fermeture du détroit d'Ormuz, juste après le bombardement américain.
Très difficile, ça.
Oui, c'est très difficile.
C'est très difficile.
Effectivement.
Et en plus, il y a une partie importante de ce qui leur reste d'exportation,
ouais,
de pétrole qui passe par les douanes d'Ormuz.
Bah oui,
donc, ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied s'ils le font. Ils ne peuvent plus sortir.
Ouais.
Et... Oui, on pourrait essayer de bloquer. Alors, on peut mettre des mines flottantes,
ouais,
on peut couler des gros bateaux au milieu pour empêcher les bateaux de passer. C'est faisable, mais il y a longtemps, je connaissais un garçon qui était dans Adia, vous savez, le grand, qui était un Français dans le grand Abu Dhabi Investment Authority, là, qui gère des milliards de dollars, là. Il m'avait dit, il vivait au Moyen-Orient, il était français, il avait épousé une Syrienne. Il m'avait dit, écoutez, on sait, tout le monde, tous les gens, ils ont sans parler, parce qu'ils se parlent tout le temps là-bas, hein. même quand ils se mettent sur la gueule, ils se parlent. Et il y a un truc sur lequel on est arrivé, c'est quoi qu'il se passe, on touchera jamais aux infrastructures pétrolières. Parce qu'à ce moment-là, si on touche aux infrastructures pétrolières et que ça pète vraiment et tout, nous, on retourne à l'âge de pierre, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien d'autre.
Ouais.
Donc le niveau de vie s'écroule, enfin c'est effrayant. Donc ce que je ne sais pas du tout, c'est est-ce que cette espèce de non-dit que... Je sais que les Houthis avaient essayé de tirer sur les installations pétrolières saoudiennes.
Ouais.
Ça n'avait été pas bien vu.
Ouais.
Vous savez, les Houthis, c'est ceux qui sont tout en bas là-bas. Donc moi, je reste sur l'hypothèse que, bon, on fait semblant de tirer sur les trucs pétroliers, mais on fait... Donc, fermer... Puis là, vous êtes certain que vous prenez les États-Unis et possiblement la Russie,
d'ailleurs. C'est clair. Là, vraiment, ça n'arrange absolument personne. Ni la Chine, ni l'Inde, le Japon, la Corée du Sud. Voilà. Toute cette zone asiatique dépend beaucoup des importations qui viennent de... Voilà. Il y a 20%, enfin 15 à 20% du pétrole mondial qui passe par Hormuz. Alors après, il y a des canaux adjacents, mais qui suffiraient pas du tout à combler le manque. Voilà, des oléoducs, etc. Mais ça suffirait pas du tout. Donc effectivement, ça embêterait tout le monde. Et on a quand même un nombre incalculable de bases américaines dans le coin, notamment celle qui est au Qatar, par exemple.
Et puis il y a la base de Bahreïn qui est gigantesque.
Oui, absolument. Celle-là, elle est énorme avec la cinquième flotte américaine. Et en plus de ça, on a déjà des porte-avions qui sont sur place. Et pour descendre des porte-avions, il faut des missiles particuliers qui se pilotent.
Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant du point de vue militaire.
Ouais.
C'est que ça devient de plus en plus difficile de tirer des missiles de terre ferme.
Ouais.
Ou des bateaux.
Oui.
Mais par contre, les sous-marins, là, vous pouvez les tirer tranquille parce qu'on ne,
ouais,
sait pas où ils sont.
Oui, tout à fait.
Donc, on voit bien que l'arrivée des drones qui foutent en l'air les autres,
ouais,
donne un rôle tout à fait spécial aux sous-marins. Et donc, j'imagine qu'il doit y avoir un nombre de sous-marins alignés au fond de la mer Rouge en ce moment. Là, ça doit être quelque chose.
Ouais.
En train de savoir s'ils ne doivent pas tirer des missiles sur l'Iran, quoi. Et en particulier sur tous ceux qui s'approcheraient d'Hormuz.
Tout à fait.
Donc, aujourd'hui, les missiles, autrefois, on faisait des bases de missiles et puis on mettait,
ouais,
des... Mais ça, c'est complètement fini. Donc, les missiles, aujourd'hui, ils sont dans des sous-marins. Ce qui veut dire que, dans le futur, la menace stratégique viendra des sous-marins. Parce que
beaucoup, oui, tout à fait.
C'est une autre forme de guerre, là. Et nos armées ne sont pas tellement... Nous, on a quelques sous-marins en France, oui, avec des missiles, oui. Mm-hmm. Mais ce sont des missiles plutôt qui tireront des armes nucléaires, ce qui n'est peut-être pas ce que vous voudriez, c'est avoir des missiles qui tirent des...
Des missiles conventionnels.
Des missiles conventionnels qui tirent des bombes, quoi.
Mm-hmm.
Donc, on sent bien qu'en ce moment, dans le domaine de l'armement, c'est en train de passer de l'armement terrestre et des avions... Aux missiles,
ouais,
aux sous-marins.
Ouais.
La balance est en train de passer vers les sous-marins.
C'est tout à fait intéressant. Moi, je suis pas du tout un spécialiste de la question de l'armement, etc. Mais l'autre jour, je lisais aussi un article dans Conflit, justement, qui traitait de la question des drones, notamment dans la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'au début, encore jusqu'à récemment, les drones, c'était vraiment juré que par les drones. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué, même s'il y en a encore énormément. Tout simplement parce qu'au début, ce qui avait un grand succès, c'était justement les drones iraniens qui coûtaient quasiment rien et qu'on pouvait envoyer comme on voulait. Et aujourd'hui, il y a deux choses qui permettent de contrecarrer l'utilisation des drones. C'est d'une part les brouilleurs de drones, c'est-à-dire que vous pouvez plus le piloter. Voilà, votre drone, vous le mettez en territoire ennemi, le machin, il est brouillé, donc vous avez plus de signal, vous pouvez plus le contrôler, donc vous pouvez rien en faire. Et d'autre part, c'est aussi les lasers. Alors là, on est dans la guerre des étoiles, c'est-à-dire qu'on a des machines, des lasers, enfin
Exactement, si on voyait des rayons là.
voilà, c'est-à-dire en fait, ils vous
À la
envoient
vitesse de la
un
lumière.
laser qui est détecté, enfin votre drone, il est détecté automatiquement, donc ça va par définition à la vitesse de la lumière. Un jet de laser, ça va coûter entre 10 et 100 dollars à peu près, donc moins que le drone, et il va cuire votre drone sur place. En l'espace de quelques secondes, votre truc, il est... Enfin
C'est le
bref.
rayon de la mort.
Voilà, absolument. Là, on est dans Star Wars complètement. Alors, c'est très technologique, c'est très technique, etc. C'est pas encore généralisé à un niveau complètement fou, mais enfin, ça existe. Et aussi, derrière, il y a d'autres systèmes, du coup, qui sont mis en place pour contrecarrer ce genre de truc. C'est-à-dire que maintenant, on a aussi des drones qui sont pilotés non pas par des humains, mais par intelligence artificielle. Comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir une liaison avec un petit mec avec sa télécommande. Là, c'est le drone qui décide tout seul de où il va. Et du coup, pour les brouilleurs, c'est efficace. Pas pour les lasers, du coup. Mais enfin, voilà, on a tout un tas
C'est la lutte
d'armes
éternelle
complètement
entre ce
folles.
qu'on appelle la lance et le bouclier.
Absolument.
Ça fait jamais que 5000 ans que dès qu'un type invente une nouvelle forme de lance, on invente une nouvelle forme de bouclier et hop, hop, hop,
Tout
hop,
à
hop,
fait.
hop, ça
Absolument.
s'arrête
C'est
pas, quoi.
ça. Et aujourd'hui, on en est là, on est au
Ce sera bien le
drone
jour où
contre
vous
le
aurez des
laser.
lances et des boucliers gérés par l'intelligence artificielle qui vont se péter la gueule quelque part dans le phare. Hein.
Ouais.
Et on dira, bon, c'est celui-là qui a gagné, donc on signe notre traité, ou c'est celui-là qui a perdu. Comme ça, on n'a plus besoin de tuer les populations civiles, si vous laisserez.
Ouais,
C'est bien
peut-être.
de faire des grands combats de drones
Ouais,
là-bas. Personne. Ah ouais, vos drones ont gagné, donc c'est vous qui avez gagné, c'est vous qui avez raison, quoi.
ouais.
Ce serait le piège, hein.
Ouais. Ouais. Mais c'est pour ça que aujourd'hui, en fait, on se posait la question de est-ce que c'est bien intelligent d'avoir encore des porte-avions, est-ce que ça sert encore à quelque chose parce qu'on peut envoyer un drone. Mais c'est quand même ça dépend des systèmes de défense parce que c'est quand même assez technique.
Le jour où les porte-avions auront des lasers qui descendent, des trucs qui
Ouais.
arrivent à 7 fois la vitesse du son.
Bah justement, ça commence un petit peu à être le cas. Alors on l'a pas vu en situation de combat, donc après c'est toujours de la théorie, on sait jamais. C'est comme les bombes là, GBU 57, on savait pas vraiment si
Ah, si
c'était
elle
tout à
allait.
fait efficace. Donc voilà. Et par ailleurs, on sait pas si une bombe est aussi efficace qu'on le prétend, puisqu'ils en ont largué 14 quand même, donc ça fait un petit paquet. Mais enfin ouais, on commence à équiper les frégates et les porte-avions américains de lasers comme ça. Les Anglais et les Français aussi commencent à le faire. Donc après on verra si
Vous
c'est
savez ce que
efficace.
disait
Peut-être.
Yogi Berra, le joueur de baseball et grand philosophe américain? Il disait, en théorie, la pratique et la théorie, c'est la même chose. En pratique, c'est pas
C'est
vrai
pas
du tout.
pareil, tout à fait, absolument. Tout à fait.
Et quand vous allez recevoir un truc à 7 fois la vitesse du son, vous espérez que le laser va marcher, hein.
Ouais, tout à fait. Et alors, après ce qui s'est passé, est-ce que vous pensez que Donald Trump mérite un prix Nobel de la paix quand même? Parce que si
Alors, les prix
ce
Nobel de la paix
cessez-le-feu.
sont donnés. Il faut savoir quel est le jury, hein.
Ouais.
Il y a un dentiste norvégien, je crois, un ancien député norvégien, puis je sais pas quel est le troisième, et qui sont des braves sociodémocrates norvégiens. Non, donc,
En tout cas, est-ce qu'il le mérite plus que Barack Obama tout de même? Parce que
Barack
là,
Obama,
franchement.
c'était le mérite zéro. Puis en plus, c'est le type qui a tué le plus de gens par des drones, justement.
Ouais.
Donc, Barack Obama, ça a été. Donc Barack Obama, on lui avait remis le prix Nobel de la paix parce qu'il était noir. Bon, c'est pas parce qu'il avait fait quoi que ce soit, c'était juste pour que les Norvégiens qui voulaient se sentir bien, quoi.
Ouais.
Bon, l'embêtant avec Trump, c'est qu'il est blond, hein.
Ouais.
Il a les yeux bleus.
Ouais.
Donc, on peut pas donner un prix Nobel de la paix à quelqu'un qui est blond et les yeux bleus, si.
Non, je sais pas si ça se fait encore.
Non, c'était les
Faudrait voir
nazis.
le.
C'était les nazis qui étaient blonds avec des yeux bleus. Donc on peut pas, puisque
Ouais.
il est blond et les yeux bleus, il est sûrement nazi aussi, non?
Enfin, cela dit, dans l'état-major de l'Allemagne nazie, il n'y avait pas tant de blonds aux yeux bleus que ça, au final.
Il y en aura un paquet quand même, parce
Il y en
qu'il
avait
était.
quelques-uns, mais le
Voilà.
principal intéressé, par exemple,
Et
bon.
non, il n'était pas vraiment. Donc voilà, la question c'est peut-être, il aura peut-être. S'il réussit à faire marcher ses accords d'Abraham, ce sera la chose la mieux, mais. n'est pas parce qu'il aura eu une bonne décision, etc., qu'il aura le prix Nobel de la paix.
Ouais. Mais si vous deviez faire le jury, je veux dire,
s'il les accorde,
c'est quand même assez impressionnant ce qu'il a réussi à faire, parce que déjà je trouve ce qui a été assez rassurant, c'est que en plein milieu de l'escalade où Netanyahou commençait à parler de changement de régime, de machin, il a quand même réussi à calmer le jeu. Et en plus de ça, il était au G7 qui était totalement insignifiant. Tout le monde a signé une petite
la guerre c'est très mal, oui.
Voilà, la guerre c'est très mal, il faut commencer à négocier machin. Macron a sorti un conseil de guerre qui est probablement le conseil de guerre le moins important de l'histoire de la France. Enfin bon, bref, si jamais vous vous sentez inutile, imaginez, il y a des gens qui travaillent au conseil de guerre d'Emmanuel Macron. Enfin bon, et Trump a vraiment, on a l'impression qu'il a géré toute la situation tout seul.
Oui, c'est bien fait.
Il a fait.
Il n'y a pas de doute. Mais là, moi je vous dis, s'il réussit son coup des accords d'Abraham, c'est-à-dire s'il fait comme OSS 117 et qu'il va pacifier le Moyen-Orient, là. Ben, ce sera un truc que tout le monde croyait impossible, quoi.
Ouais.
C'est un truc. Alors, je sais pas, mais on va voir.
Oui, on va bien
vous
voir.
Vous savez, ce qu'il y a de bien avec Trump, c'est que vous l'aimez beaucoup à un moment, puis ensuite vous dites, mais il n'y a que des conneries, puis ensuite vous dites, ah ben c'est pas mal quand même, et puis que des conneries. Donc, ce qu'il y a de certain, c'est que si vous pensez quelque chose de Trump, attendez 5 minutes, ça va changer, quoi.
Oui, c'est sûr.
Je suis devenu, moi, très. Dès le départ, je l'ai bien aimé parce qu'il avait cette capacité à dire des trucs insensés qui me faisaient rire. Donc, je le regarde, mais je suis prêt à nouveau à changer d'avis. Si jamais il me fait le coup des accords de ce moment-là, je dirais, ben, bravo.
Ouais.
C'est tout ce que j'espère.
Oui, effectivement, il a cet effet-là. Mais ouais, j'ai trouvé sa conduite assez rassurante pendant cet épisode, parce que franchement, moi, je suis plutôt en accord avec l'intervention qu'il a opérée. Et le côté je fais ça et ensuite je m'en vais et signer un cessez-le-feu, une trêve entre vous, parce que là c'est pas possible. Je trouve que c'est assez mesuré. Il a pris conscience des enjeux. Il s'est arrêté là. Il a dit l'enjeu c'est le nucléaire, c'est pas plus que ça. Et le reste n'a pas tellement d'importance pour moi, donc ça ne me concerne pas.
Ce que vous dites est exact, c'est-à-dire qu'il a défini le but de son action.
Tout à fait.
Il n'a pas ouvert un truc comme, par exemple, se débarrasser de Saddam Hussein ou j'en sais rien, un changement
de
régime.
Oui, c'est ça. À chaque fois, dès qu'on a des objectifs un peu flous, oui, tout à fait.
Parce que là, son objectif, c'était d'empêcher les autres d'avoir ce qu'il avait signalé d'ailleurs à l'Iran. Il l'a fait et il s'en va. Bon, bah, ça me paraît bien. Quoi. Moi, c'est, en effet, ça me paraît de limiter, de dire voilà ce que je vais faire, je le fais et puis je m'en vais.
Oui.
C'est bien. Moi, je trouve ça, c'est bien ça.
Je trouve ça aussi. Aussi assez mesuré. Et alors après, il y avait aussi une autre lecture de la chose, c'est-à-dire que certains, en gros, on a bien vu la résurgence de certaines lignes de fracture au sein du camp républicain. Avec, il y a notamment une question de génération aussi, avec les vieux républicains qui étaient là depuis 20 ans, de l'époque Bush, qui eux étaient totalement pour une intervention totale en Iran, machin, il faut absolument...
Ils ont toujours été d'accord sur ça.
Voilà, il faut absolument aider Israël, machin, une volonté pour le coup jusqu'au boutiste, et on s'en fiche de combien de jeunes Américains on envoie se faire massacrer, et combien d'Iraniens aussi on va massacrer au passage, enfin bref. Et une autre frange qui, elle, était totalement contre toute forme d'intervention.
Ça, c'est une grosse frange. C'est maintenant dans les MAGA, vous savez, il y a des types comme Carlson, là, qui sont férocement contre toute intervention extérieure. Qui sont vraiment forteresse américaine.
Ouais.
Maintenant, ça nous intéresse pas, il faut qu'on s'occupe.
Et là, Trump est dans une forme plutôt d'entre-deux. C'est-à-dire vraiment pas de. On intervient un petit coup histoire d'eux, mais derrière, pas de conflit généralisé.
On va pas s'engager à tiroir ouvert. C'est amusant parce que c'est une question de proportion. Mais c'est comme en Chine. Les gens me disent le gouvernement chinois va aller vers des prestations sociales qui sont distribuées, etc. Et Louis, qui connaît bien la Chine, me dit jamais ils feront ça parce que c'est des trucs à tiroir ouvert qu'on peut pas contrôler une fois qu'on s'en les a donnés. Donc ça les gêne pas de donner de l'argent année après année à condition que ce soit pas automatique.
Oui, d'accord.
Donc ce serait bien si on avait un peu partout des des gérants dans le monde qui disent voilà quel est mon but, voilà les moyens que je vais y mettre, et une fois que je serai arrivé à ce but, si on y arrive,
ouais,
j'arrête. Tandis qu'on a, par exemple, toute l'histoire de sécu, d'immigration, etc., on a toujours fait ça sans définir ce qu'on allait faire, ce qu'on allait accepter, ce qu'on allait voir, etc. Donc,
sans définir ce qui serait un échec non plus.
Sans définir ce qui serait un échec non plus. Donc, on se retrouve dans des systèmes ouverts qui deviennent absolument ingérables.
Oui, tout à fait. Donc, une fuite en avant permanente à chaque fois.
Ce serait pas mal que les gouvernements du monde se disent, bon, ben, les gars, je sais pas, je vais faire un budget annuel et puis je vais voir comment je répartis. Qui reviennent, non pas changer l'homme, changer l'humanité, rendre l'homme heureux, et qui reviennent à qu'est-ce qu'on ferait si on va s'occuper peut-être de déboucher le canal de Suez,
ouais,
dans les 12 mois qui viennent, et puis ensuite on verra ce qu'on fait, quoi. Vous voyez,
ouais,
ce que je veux dire,
tout à fait.
Des buts précis avec lesquels on peut les mesurer, quoi. Et plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais plus monsieur Macron va d'échec en échec, plus ses objectifs deviennent imprécis et généralisés.
Oui, c'est vrai. Tout à fait.
C'est extraordinaire.
Tout à fait, il est capable de prendre la parole pendant des heures sans rien dire, ce qui est un talent en soi. Effectivement.
Ouais.
Non, mais moi je serais incapable de le faire, donc je sais pas, je me dis, c'est peut-être quelque chose qu'on apprend à l'ENA, j'imagine.
Se laver les dents dans un verre à pied, se laver les pieds dans un verre à dents, et ça peut continuer, quoi.
Oui.
C'est ce qu'ils apprennent à l'ENA, vous savez. Donc, apprendre à parler pour ne rien dire, et s'en faire gloire toute sa vie, c'est bien.
Surtout en tant que président. On doit
mais cette incapacité qui semble avoir à prendre la moindre décision.
Mais c'est comme nos députés, hein. Ils veulent tous devenir président, mais alors dès qu'il faut voter sur un truc important, ils ont tous piscine, ils ont aquaponais, enfin je sais pas ce qu'ils.
Bon, ils vont au bar.
Ouais, ils vont au bar.
Il y a toujours le record de la buvette qui est toujours à prendre.
Ouais.
Je crois que c'était par le Pierre de Montesquieu, mais ça doit dater des années 60, ça.
Ouais, à mon avis, ils ont plus la même descente, hein. Je suis pas sûr que les députés d'aujourd'hui soient capables de.
Ouais. Un litre d'Armagnac sans.
Non, je crois qu'on les retrouve à l'hôpital encore une semaine après.
Oui, les pauvres sont des petites natures.
Ouais.
Mais c'est extraordinaire cette classe politique dans le monde entier, aux États-Unis et tout, qui discutent comme si de leurs décisions était le monde et qui parlent, et il ne se passe jamais rien, quoi.
C'est. Ouais.
Moi, c'est ça qui me sidère le plus, c'est le manque total de rapport entre ce qu'ils disent à la Chambre et la réalité.
Mmh.
Et c'est vrai aussi avec le Sénat américain ou avec la Chambre des représentants. Vous dites, mais c'est bizarre d'avoir créé une classe qui, dans le fond, qui sert à rien et qui parle pour ne rien dire. Quoi.
Oui, bah, c'est-à-dire qu'il y a... comment dire ? Il y a eu une fusion un peu dans l'idée entre certains journalistes, ce qu'on pourrait appeler la classe jacassière.
Ah oui, c'est brave bar. Ouais.
Et en fait, la classe qui est censée être d'action. Les députés, les ministres, peut-être parlent plus que jamais, agissent sans doute moins que jamais, on a envie de dire. Si vous êtes à un poste important de pouvoir, si pour vous c'était important de parvenir là où vous êtes, vous n'avez pas tellement besoin de parler, vous avez surtout besoin d'agir. Ou alors, si vous n'avez pas besoin d'agir, vous n'avez pas besoin de parler.
Ben c'est toujours pareil, si vous voulez. Si vous êtes arrivé au pouvoir, c'est ce que disait Bastiat, si vous êtes au pouvoir et que vous savez ce qu'il faut faire, ce que vous faites, c'est que vous le faites et que vous n'en parlez pas.
Oui.
Mais ils font le contraire.
Oui, effectivement, c'est Jean-Jacques nous a sorti cette citation.
On va avoir de très belles citations de Bastiat à vous donner, quelques-unes.
Tout à fait, on pourra peut-être faire un recueil spécial.
On fera une émission sur les principales citations de Bastiat.
Pourquoi pas, ce serait sympathique.
Ce serait une bonne idée, ça.
Tout à fait, effectivement.
Ben voilà, c'était un... Donc, c'est... Ben, je crois qu'on peut dire que... Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, la marche vers Armageddon semble s'être interrompu, quoi.
Oui, oui, effectivement. Pendant une semaine, on a parlé de Troisième Guerre mondiale. Alors moi, je n'étais pas du tout dans l'idée qu'on allait sur un conflit totalement généralisé. J'ai eu assez confiance en Donald Trump, pour le coup. En fait, je me suis dit tout simplement, si jamais il décide d'intervenir de manière plus large en Iran, c'est parce qu'on lui a assuré, avec certitude, que on pouvait remplacer facilement le régime par
mais
un autre
ça,
régime.
Mais ça, lui assurerait-on? Il dirait oui, mais on avait assuré la même chose à Bush, on avait assuré la même chose.
Tout à fait.
Donc, à Obama avec la Libye et tout. Donc, le fait qu'on lui assure, ça devait l'inquiéter plutôt que chose.
C'est-à-dire, il faut que ça vienne d'autre part que la CIA et des services israéliens. Parce que sinon, effectivement, là, on connaît déjà la réponse en avance.
Il va avoir des doutes.
C'était un peu ce qu'on a essayé de nous vendre pendant 2-3 jours. C'était l'idée que l'état-major était déjà prêt à se tourner vers l'héritier de la monarchie d'antan. Bon, alors on va remplacer le régime des Mollahs par un autre régime qu'on a déjà vu, qui était déjà en place en grande partie grâce à l'action de la CIA.
Il faut pas oublier que c'est la CIA qui avait fait sauter Mossadegh, qui était le seul gars qui ait jamais été élu en Iran. Donc ça remonte loin. Aux années 50.
Oui, tout à fait, 53. Il me semble.
Donc tout ça, bref, un crime ne reste jamais impuni.
Ouais, effectivement. Et on ne gouverne pas, ou en tout cas, c'est difficile de gouverner un pays depuis l'extérieur.
Ah très, c'est impossible.
Ouais, c'est compliqué. Enfin voilà. Donc je crois qu'on a traité cette question. J'espère de tout cœur que ce cessez-le-feu qui semble être en vigueur à l'instant, à la minute où on en parle, j'espère qu'il va rester en place, que personne ne va bouger, parce qu'on sent des turbulences pas seulement du côté iranien mais aussi du côté israélien.
Il y en a qui voudraient.
Ils ont très envie d'une escalade parce qu'ils savent qu'ils ont la domination militaire.
Et puis à partir du moment où la boîte à claque est ouverte, il y a des tas de gens qui adorent ça.
C'est ça.
La refermer, c'est pas évident. Hein.
C'est ça. Et puis le Israël, forcément, vit dans une bulle un peu particulière où pour eux, effectivement, l'ennemi numéro un, c'est l'Iran. C'est peut-être le seul adversaire à la possible survivante d'Israël. Mais à partir du moment où le programme militaire nucléaire est foutu, j'ai envie de dire,
des merdaines zizich.
Oui, des merdaines zizich, absolument. C'est votre problème à vous. Bref, voilà pour l'Iran. Peut-être que la section commentaires sera un peu plus calme cette fois. Encore une fois, si jamais vous avez des désaccords, il n'y a aucun problème, bien sûr. Mais pas d'insultes, pas de sous-entendus de je ne sais quoi. Peut-être, plutôt que nous traiter d'idiots, proposer votre vision des choses. Sinon, j'ai envie de dire, vous ne contribuez pas tellement à l'élévation morale et intellectuelle de la communauté. Voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et sur ce, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, pour une nouvelle émission sur l'Institut des Libertés. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.